Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marais Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marais Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marais-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors vous savez pas ? Eh bien on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Un coup de cœur cinéma, le film sortira le 19 février prochain. C'est le nouveau Karine Tardieu, intitulé L'Attachement avec Pio Marmaille ou encore Valeria Bruni-Tedeschi. Karine Tardieu sera notre invitée dans une poignée de secondes. Et puis on parlera également du film Haut les mains qui sortira donc mercredi, ce coup-ci dans les salles. Sa réalisatrice Julie Manoukian sera en ligne avec nous. Nos coups de cœur télé cette semaine consacrés à Plus belle la vie avec Johanna Boyer alias Aya Konaté qui sera avec nous. On accueillera également François Vicintelli qui viendra nous parler de ses nombreux projets, notamment à la télé ou encore au théâtre. Et puis nous recevrons l'exceptionnel Roman Dodwick. Vous l'avez peut-être découvert dans Danse avec les stars l'année dernière pour fêter le retour de l'émission depuis vendredi dernier. Roman sera avec nous, nous évoquera ses souvenirs, ses projets, son spectacle adorable. Et on verra s'il est vraiment adorable, mais j'en doute pas. Alors vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. C'est parti!
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur ciné aujourd'hui consacré à L'Attachement, le nouveau film de Karine Tardieu qu'on retrouve après Les Jeunes Amants il y a quelques années. Karine est de retour dans Chut, on écoute la télé. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour découvrir ce nouveau film avec un casting d'exception. Valeria Bruni-Tedeschi, Pio Marmaille, Vima Laponce, Raphaël Quenard et puis ce petit garçon qui est absolument brillant. On va y découvrir cette histoire assez singulière d'un couple dont la femme est sur le bord d'accoucher justement et donc leur petit garçon va être laissé chez la voisine puisqu'ils vont partir en catastrophe évidemment. Et puis il va se passer un événement assez tragique qui va faire que cette voisine va petit à petit s'attacher à ce petit garçon et à cette famille et va s'en rendre compte aussi, devenir presque indispensable à leur vie. C'est tiré d'un livre, hein.
Oui, absolument. C'est tiré d'un livre d'Alice Fernet qui s'appelle L'Intimité, mais dont je me suis pas mal détachée à l'écriture avec mes co-autrices, parce que m'intéressait dans le livre la première partie, ce que vous venez de raconter, en fait, cette rencontre entre cette voisine et son voisin de palier et ses enfants. Et ensuite, le livre s'attachait plus à d'autres choses et voilà, il m'intéressait cette rencontre et la force de l'attachement qui se déploie au fur et à mesure de cette histoire.
Et puis on ne sait plus trop même à un moment donné ce que peut être justement dans l'intimité cette personne. C'est la voisine, c'est presque une mère de substitution à un moment donné. Elle s'attache tellement à ce petit garçon qui est hyper attachant. Où c'est qu'on trouve justement un petit garçon comme ça aussi naturel que déconcertant finalement.
C'est le nerf de la guerre de trouver l'enfant idéal. L'idée, c'est quand on fait un casting comme ça, c'est de pas avoir du tout d'idées préconçues justement sur ce à quoi il va ressembler. On en a vu entre 150 et 200 des enfants et lui c'était vraiment le seul, l'unique qui avait pour qualité principale d'avoir une écoute extraordinaire des autres, de ses partenaires, parce que tout enfant qui en a le désir, en tout cas, peut apprendre un texte et se prêter au jeu d'un dialogue. En tout cas, lui avait cette singularité-là d'être capable d'écouter ses partenaires et d'assumer aussi les temps de silence, par exemple. Il se passait énormément de choses dans son regard, dans des moments silencieux. Quand il ne se passe rien avec lui, il se passe énormément de choses.
Ah, il y a autant la joie que la colère quand il lance un regard noir. Par moment, il est aussi hyper flippant, ce petit garçon. Et il a été passé par toutes les émotions dans ce film à diriger. Ça a dû être en tout cas quelque chose. C'est un film aussi sur la reconstruction.
Oui, bien sûr, c'est un film à étapes. Le film est rythmé par l'âge de la petite sœur qui naît au début du film. Chaque mois qui passe, en fait, raconte la force de l'attachement, la reconstruction après les différentes étapes d'un deuil, on va dire. Comment chacun réussit à
trouver sa place,
à retrouver une place malgré une mère manquante. Hein, puis ça se passe au début du film, cette mère qui décède en accouchant. Et voilà, oui, il y a quelque chose de l'ordre de la, si ce n'est de la reconstruction, en tout cas de la construction familiale.
Puis jusqu'au moment où arrive le personnage du Vimal Aponce, qui est hyper solaire, évidemment, qui amène quelques touches de fantaisie, de comédie aussi, mine de rien, dans cette histoire. Elle est tellement solaire, Vimala.
Elle est solaire, mais aussi très dramatique, et son personnage est un personnage qui n'est pas que lumineux, loin de là. Disons qu'elle apporte de la vie à un moment où le personnage incarné par Pio Marmaille en a besoin, mais ils ne vont pas aller ensemble dans la direction qui paraît toute tracée au départ pour eux, en tout cas.
C'est ce qu'on découvrira en tout cas en allant voir le film. Quand on a affaire à des acteurs de cette trempe, Valeria Boni Tedeschi, elle offre une partition complètement dingue avec ce petit garçon. On sent en tout cas qu'il y a une espèce d'alchimie avec le petit Elliot dans le film, qui est hyper prenante entre eux. J'imagine la rencontre que ça a pu être, elle a dû s'attacher très vite à ce petit garçon.
Valeria s'est attachée très vite à César, qui s'appelle César Botti, qui incarne Elliot. Elle était très vite assez impressionnée par sa capacité à lui donner la réplique, au fond. Puis Valeria, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les enfants, et en ça, d'ailleurs, c'était un contre-emploi que je lui ai proposé, puisque le personnage de Sandra qu'elle incarne est au départ quelqu'un qui ne veut s'attacher à personne, justement, qui se revendique d'une certaine liberté, qui ne veut pas avoir d'homme, en tout cas pas de manière constructive dans sa vie, surtout pas avoir d'enfants, qui se revendique
certaines carapaces, en quelque sorte.
Exactement. Et c'est l'arrivée, l'intrusion de cet enfant dans sa vie qui va fendre l'armure. Et voilà, donc oui, la difficulté pour Valeria, c'était que elle, d'emblée, spontanément, est quelqu'un qui a une grande affection pour les enfants et qui s'y attache assez facilement. Et il fallait qu'elle retienne cet instinct-là, que je la retienne, en tout cas, dans cet instinct-là. Donc, on a pas mal bataillé sur le tournage. Mais d'une certaine manière, c'est plus facile de prendre une actrice qui a cette force d'attraction pour les enfants. C'est plus facile de retenir que de l'inventer. Donc, j'ai préféré prendre une actrice qui a cet enthousiasme-là au départ, mais qui le réfrène, plutôt que de prendre quelqu'un qui aurait dû inventer ce rapport... on va dire même charnel aux enfants, voilà. Donc je regrette absolument pas mon choix, et je la trouve, même son incarnation de Sandra va au-delà de mes espérances.
On va découvrir l'attachement le 19 février dans les salles. On va écouter la bande-annonce et on revient juste après. Karina, tout de suite.
Excuse-moi, j'ai perdu les os. Comme tu m'avais dit que pour une heure ou deux...
Bon, j'ai dit ça.
On fait la course?
J'ai pas envie de faire la course, vas-y toi.
Tu connais rien au petit garçon, t'as pas d'enfant.
Je vais me préparer.
Qu'est-ce que je fais, moi?
Je sais pas. Tu veux faire un dessin? Ça veut dire quoi, ça? Oui ou non?
Il faut que je te dise quelque chose de très triste au sujet de maman.
Elle est morte.
Ouais.
Et me perdoe si eu insisto neste tema. Mas não sei fazer.
Est-ce qu'Alex l'aimera plus que moi?
Un père, a de la place pour tous ses enfants.
Sauf que je ne suis pas son enfant.
L'attachement, le nouveau film de Karine Tardieu, qui est avec nous aujourd'hui pour justement en parler. Alors, on a parlé de Valeria, on a parlé de César qui incarne le petit Elliot, on a parlé de Pio Marmaille qui offre une partition. On a envie de le prendre dans nos bras en permanence, Pio.
Oui, c'est vrai. Ce que j'ai aimé chez Pio, c'est qu'il est venu à ce film sachant qu'il n'avait jamais, sans doute, dans sa carrière eu à incarner un personnage aussi fragile au fond. Et j'aimais bien l'idée. Enfin, je crois que j'aime bien. C'est pas le contre-emploi là, c'est pas comme Valeria, mais de prendre un acteur pour ce que je n'ai jamais vu vu de lui, mais je devinais qu'il avait en lui, en tout cas, cette fragilité, qu'il allait falloir creuser pour l'aider à y avoir accès. Mais donc on a travaillé ensemble pour qu'il tombe l'armure, lui aussi, voilà, parce qu'il a une facilité pour la comédie pio. Quand il s'agit de montrer un peu plus ses failles, c'est quelqu'un de très pudique.
Dans Tempête, il avait bien fait, hein.
Ouais. Donc du coup, on a beaucoup travaillé là-dessus ensemble. Et
quand vous mettez en scène, parce que vous avez tourné film dans le désordre, j'imagine, comme tous les films aujourd'hui au cinéma, quand vous voyez les premiers rushs qui se font, ce qui se passe devant vous, la chimie qui doit fonctionner justement, et peut-être par touches différentes, parce que si vous tournez de la fin avant du début, il faut avoir des émotions différentes. Là, c'est là que tout le travail de la réalisatrice prend forme, et la direction d'acteur prend forme. Ça crée des difficultés supplémentaires quand même.
C'est mon travail, c'est effectivement de tenir ma ligne du début à la fin du film, voilà. Et peut-être que la difficulté, c'était d'avoir des comédiens qui sont des acteurs qui sont pour l'ensemble, Vima Laponce aussi et Raphaël Quenard, très instinctif, et qu'il fallait pousser à certains endroits et retenir à d'autres, hein, gommer certaines aspérités. Par exemple, Vima est quelqu'un qui déborde souvent d'émotions et j'avais plus tendance à la retenir, à contenir l'émotion chez elle. Mais il y avait donc toutes ces inconnues là avec ces acteurs qui sont, on va dire, irréguliers, mais qui sont généreux et qui donnent énormément, mais qui sont pas des acteurs constants, on va dire. Et travailler avec eux, et des enfants en plus dont on ne sait jamais réellement, avec qui on ne sait jamais ce qui va arriver, et des bébés dans tous les sens, parce que pour incarner une petite fille de 0 à 2 ans, il faut je ne sais pas combien, 25 bébés différents. Donc voilà, ça a créé un tournage, on va dire, très intense,
épique,
mais voilà, mais en tout cas il y avait de la matière au montage, oui.
Puis c'est réussi, le résultat il est là, et c'est ça qui est vraiment chouette à voir. Quand on voit des acteurs comme ça, alors vous avez énormément de chance pour le coup dans votre carrière, parce que le dernier film c'était Melville Poupeau, Fanny Ardant, vous avez devant votre caméra souvent à diriger des acteurs qui sont vraiment tous aussi incroyables les uns les autres. Est-ce qu'il y en a pour le futur avec qui vous rêvez de tourner?
Oui et non, c'est-à-dire que il y a plein d'acteurs alors me faire rêver, je ne sais pas, mais il y a plein d'acteurs qui quand je les vois dans certains films, me donnent envie de travailler avec eux. J'aime beaucoup les acteurs en général, mais en fait c'est quand j'écris un film et que tout d'un coup un rôle se dessine que le désir peut naître. Mais je ne rêve pas des acteurs dans l'absolu. C'est quand un personnage doit s'incarner que tout d'un coup un acteur peut me faire fantasmer.
Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est vraiment les dialogues, l'écriture, le scénario, qui est très fin, très bien écrit. Il y a souvent des répliques qui sont toujours au moment où il faut. Il y a vraiment un travail de fond. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué, moi, quand j'ai vu le film la première fois. C'était au Festival de Royan il y a quelques semaines maintenant. Et j'avoue que ça m'a vraiment marqué. C'est pas toujours le cas aujourd'hui dans les films.
J'ai envie de dire, je travaille énormément en amont. C'est-à-dire que je ne lâche rien sur le scénario. J'ai la chance d'être accompagnée par des producteurs, Antoine Rey et Fabrice Goldstein, qui m'accompagnent très bien, qui me poussent dans mes retranchements, qui me permettent de remettre en question en permanence ma copie. Et puis surtout, je ne travaille jamais toute seule à l'écriture. Donc il y avait un roman à la base, mais j'ai commencé à travailler avec Agnès Feuvre et aussi Raphaël Moussafir, qui est ma co-autrice de tous mes films depuis Du vent dans mes mollets, qui a aussi un énorme talent dans les dialogues, de finesse sur le rapport entre les personnages. Enfin voilà, c'est pas un travail que je fais toute seule, c'est un travail vraiment d'équipe, et voilà, j'ai été bien servie, oui, je dois dire.
On embrasse d'ailleurs Fabrice Goldstein, qu'on connaît bien. On l'embrasse avec toute son équipe de La Belle Étincelle aussi. Voilà, et on sait que voilà, on est toujours à ses côtés aussi dans ce qu'il produit. Et on est très heureux en tout cas d'avoir pu parler de ce film qui s'appelle L'Attachement, dans les salles au cinéma. Pio Marmaille, Vima Laponce, César Botti, qui est absolument incroyable, Valeria Bruni Tedeschi. Ils sont tous fous, Raphaël Quenard et plein d'autres que vous allez découvrir. Merci beaucoup Karine, à très bientôt.
Merci à vous.
Et à la prochaine, pour le prochain film du coup.
Avec grand plaisir.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Quand tu veux, je te ramène des années en arrière. Quand tu mentais si bien. Du jour, mais les règles ont changé. C'est bien mon chat, t'as essayé trop tard pour t'excuser. Nanana, tu pensais vraiment que j'étais naïve, mais quelle erreur. Tu pensais vraiment que j'étais docile, mais quelle erreur. J'suis tombée pour toi comme un domino, chérie, tu t'es pensé mon proprio. T'as cru qu'Anna va la tuco, oh. À mon tour de danser, tu ne peux que regarder. Vois comme j'ai changerai ma vision. Un tout doux, tu n'auras qu'une chanson. Na na na. Remercie-moi, je ne fais pas de drama. Coup de fil le soir, je n'en peux plus, lâche-moi. Tout doux, on va plus jamais se voir. Na na na. J'suis tombée pour toi comme un domino. Chérie, tu t'es pensé mon proprio. T'as cru qu'elle ne va let you go. Oh. À mon tour de danser, tu ne peux que regarder. Vois comme je prie quand tu n'occupes plus mes pensées. À ton tour de courir, tu ne peux plus me mentir. Face à tes vices, je ne suis plus ton bébé. J'suis tombée pour toi comme un domino. Chérie, tu t'es pensé mon proprio. T'as cru qu'elle ne va let you go. Je ne suis plus ton bébé. Déjà tout dit, déjà discuté, j'en ai plus envie. Vivre sans toi, c'est de la folie. Je ne suis plus ton baby. Tombé pour toi comme un domino. Chérie, tu t'es pensé mon proprio. T'as cru qu'elle ne va let you go. Je ne suis plus ton baby. Plus rien à dire, j'ai déjà tout dit. Déjà discuté, j'en ai plus envie. Vivre sans toi, c'est de la folie. Je ne suis plus ton baby.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
Salut, c'est Audrey Dana. Moi, chaque semaine, j'écoute Alain Jeanne dans Chut, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Plus belle la vie, encore plus belle, votre série préférée. Vous suivez avec assiduité du lundi au vendredi à 14h. Et nous avons justement Johanna Boyer qui est avec nous, alias Aya Konaté. Bonjour Johanna.
Oui, bonjour, bonjour.
Deuxième fois notre micro en moins d'un an d'existence de Plus belle la vie. Et franchement, un plaisir de pouvoir te retrouver dans cette série. T'es un peu le rayon de soleil du Mistral maintenant.
Oh, bah merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que je renvoie bien cette image parce que c'est mon rôle et j'espère être comme ça aussi en vrai, ma foi.
Exactement. Et dis-moi, ton personnage a vécu quand même des moments difficiles avec Kylian ces dernières semaines. Ça a été un peu plus sombre, une facette un peu plus sombre aussi de Aya.
Ah bah oui, vous avez pu voir l'arche du coup. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était en pleine arche, il me semble. Donc bah, vous avez vu l'arche, vous avez vu comment ça s'est terminé. C'était assez dur mentalement pour Aya, qui, elle, ne voulait pas forcément se mettre en couple de base en plus. Donc elle a décidé de se mettre avec Kylian et elle n'avait pas vu au final qu'il y avait tout ce background avec cette femme en fait. Donc c'était difficile, mais on espère que ça ira dans l'évolution parce qu'au final, ils s'aiment beaucoup quand même. Ils sont amoureux.
Bah oui, c'est clair, ça crève l'écran. Il y a eu des scènes quand même avec Oria, entre vous deux, qui étaient assez dingues, quoi.
Ouais.
Électrique, je dirais même.
Ah, c'était très électrique. Et en plus, c'est marrant parce que la comédienne, on se connaissait pas de base. Donc en fait, tout de suite, on a dû être dans un truc de rivalité, pas du tout bienveillant. Et pourtant, on s'entendait hyper bien dans la vraie vie. Donc c'était hyper drôle à jouer. Et en plus, on s'aidait beaucoup. C'était dur, parce qu'il y a beaucoup de pleurs, c'était dramatique en fait. Et pourtant, c'était hyper, hyper cool à jouer.
Comment ça se passe sur le plateau? Est-ce que tu te vois encore longtemps? En tout cas, est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que tu as conscience aussi du nombre de personnes aujourd'hui qui regardent et du bien que vous faites aux gens aujourd'hui? Est-ce que ça, tu as commencé maintenant à en prendre conscience?
C'est une bonne question. Est-ce que j'en ai conscience? Pas forcément. C'est dur de se rendre compte, en fait, de ce qu'on provoque, en fait, dans la tête des gens, à quel point ils sont proches de nous, en fait, la proximité qu'on a avec eux, parce que nous, on est en studio toute la journée, on voit pas les gens tous les jours, en fait. Donc, du coup, j'ai commencé à comprendre quand j'ai vu beaucoup de gens m'arrêter dans la rue, et ça fait hyper plaisir, ça fait hyper chaud au cœur, parce que je me dis, bah oui, je suis comédienne, et c'est bien, j'adore faire ça, mais aussi, je sers à quelque chose. Je suis utile parce que j'impacte des gens. On parle de la vie courante, en fait, ils s'identifient à nous, donc ça fait plaisir de voir que on peut les aider, en fait, dans la vie. Juste en nous regardant, on les aide, des fois. Et ça fait plaisir.
Exactement. Si quelqu'un n'a jamais regardé Plus belle la vie, ou du moins pas la version TF1, et que tu aurais envie de leur présenter le personnage d'Aya en leur donnant envie de regarder, qu'est-ce que tu leur dirais?
Alors, déjà, si vous n'avez pas regardé Plus belle la vie dans votre vie...
C'est un tort.
C'est un tort. Il faut vraiment commencer, parce que, bon... franchement, en tant que Français, regarder Plus belle la vie, c'est vraiment une part de... Enfin, c'est une part tellement immense de notre culture, je trouve, qu'il faut au moins regarder quelques épisodes pour s'intéresser, limite à la culture française, quoi. C'est important. Mais je vous dirais que Aya, c'est quelqu'un de solaire, de bosseuse, qui aime la vie, qui aime l'amour, qui aime les gens, tout simplement, qui, du coup, qui fait ses études, mais elle veut toujours faire mieux. Donc, les jeunes peuvent très facilement se reconnaître enfin les jeunes, les gens en fait qui sont en train de se construire dans la vie peuvent très facilement se reconnaître dans ce personnage. Et pour vous rendre compte que vous n'êtes pas seul dans les expériences de la vie comme amoureuse, comme amicale, comme même professionnelle, bah vous pouvez regarder cette série, enfin en tout cas le personnage d'Aya, pour ça, pour vous reconnaître en elle en tant que jeune qui essaye de rentrer dans la vraie vie, quoi.
C'est ça qui est génial, c'est pouvoir s'identifier justement à cette jeune fille qui amène un soleil justement dans cette série. Alors on le disait, il y a les fans aujourd'hui, une série quotidienne, ça impacte évidemment le quotidien français parce que vous invitez tous les jours à déjeuner chez eux. J'imagine que tu as peut-être regardé déjà Plus belle la vie avant de tourner dedans.
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des personnages à l'époque dont tu étais fan, que tu rêvais peut-être de tourner un jour avec eux et que là ça arrive, ou peut-être d'autres personnages sur lesquels voilà, tu étais vraiment en kiff comme on dit aujourd'hui?
Oui. Alors moi personnellement, il y avait un personnage qui s'appelait Johanna, et vu que je m'appelle Johanna, et ben j'étais absolument fan d'elle. J'aimais beaucoup son énergie, j'aimais bien comment elle abordait la vie, enfin comment on faisait aborder la vie à son personnage. J'aimais bien aussi Roland et Myrta. Ils me faisaient penser à mes grands-parents en fait, et j'adorais les voir, et j'avais même envie d'être plus proche de mes grands-parents en les regardant. Je me disais, mais ils sont incroyables, mais mes grands-parents aussi sont incroyables, mais il faut que j'aille les voir. Du coup, c'est ces personnages là qui m'ont beaucoup marqué. Et
tu peux le dire à Dounia, ça?
Non, malheureusement j'ai jamais vu, mais je
lui sens la déception, toi.
Carrément, mais Dounia, we love you. Je t'adorais et je t'adore toujours d'ailleurs, hein, mais bon.
On la retrouvera bientôt dans Tom et Lola d'ailleurs, hein, sur France 2, nouvelle série avec ma petite doudou.
Oui, bah, elle m'a beaucoup marquée. Et alors Rudy, évidemment aussi, je m'identifie à lui parce qu'il était métis et que bah à l'époque on voyait pas beaucoup de métis à l'écran, et donc du coup bah je trouvais ça génial, et je me disais, ah, il est comme moi, c'est trop cool. Et voilà, du coup je l'adorais aussi.
Écoute, c'est des bonnes nouvelles tout ça. Johanna, qu'est-ce que tu voudrais qui arrive à Aya? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu aimerais jouer?
J'aimerais bien, ça c'est aussi hyper personnel, mais j'aimerais bien qu'on voit plus ma famille du côté de mon père, parce que bah on a Jawad en commun. Du coup, j'aimerais bien qu'on voit un peu plus ma famille, qu'on montre le
côté privé.
Privé, ouais, et la mixité, ce que ça peut importer d'avoir plusieurs origines et en même temps d'être français, de montrer la représentation de gens d'origine extérieure à la France, mais français. Ça pourrait être hyper cool. Et sinon, chanter et danser, comme d'habitude.
Tu as fait un guest dans Tropique Criminel au mois de mai dernier. Est-ce que tu as d'autres projets, là? Est-ce que tu as eu le temps de pouvoir tourner peut-être d'autres choses qui vont arriver bientôt?
Non. Franchement, depuis que j'ai commencé Plus belle, je me suis laissée un an pour être à fond dedans. J'aime pas faire les choses à moitié, et je voulais vraiment me plonger dans la série, dans la famille de Plus belle la vie. Beaucoup de textes à apprendre, évidemment, beaucoup d'allers-retours à Marseille. Je passe un peu ma vie à Marseille en ce moment. Donc quand j'ai eu quelques castings, j'ai dit à mon agent, là pour l'instant, non, je préfère me consacrer à Plus belle à 100% et déstresser un petit peu, parce que c'est beaucoup de pression quand même. On a envie de faire plaisir aux téléspectateurs, de pas les décevoir, surtout ceux qui regardent depuis des années. J'avais vraiment envie de tout donner. Donc pour l'instant, pas de nouveaux projets, mais je pense que ça ne serait tardé.
Eh bien, écoute, je pense que le public de Plus belle la vie t'a adopté. En tout cas, bienvenue dans la famille Plus belle la vie. Et bienvenue dans Chute, on écoute la télé. Maintenant, eh bien, ici, tu es chez toi aussi. Tu viens quand tu veux. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi, Alain.
On te dit à bientôt.
Oui, à bientôt.
Tu te lances dans un grand ménage?
Non. J'ai préparé la première séance de self-défense.
Attends, Ken, t'es pas sérieux, là?
Bah si. Tu m'avais dit que tu voulais savoir te battre, donc je peux t'apprendre un petit peu.
Oui, mais j'aurais jamais dû t'en parler. Enfin, tu sais très bien que c'est pas fait pour moi, ce genre de truc.
Attends, Aya, s'il te plaît. Viens juste, on essaye et on voit si tu kiffes.
Ouais, je le sens pas du tout.
Allez, notre invité aujourd'hui, François Vigintelli, qui est avec nous. Bonjour, mon cher François.
Bonjour, très heureux d'être là.
Ben écoute, nous on est très heureux de t'accueillir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Roy Lapoutre, qui, j'avoue, m'avait manqué. Et on est très heureux de découvrir tous tes projets qui vont arriver.
Roy Lapoutre, c'était vraiment, c'était merveilleux. On n'a quand même jamais fait mieux depuis, hein. Pas se mentir. Ouais.
T'imagines quand des personnages comme ça vont pouvoir traverser les époques, et comment une série culte honteux peut devenir à ce point-là, quand même.
Oui, on se rendait pas compte. Mais c'est vrai qu'on m'en parle, on m'en parle souvent. Ouais. Je suis très fier de cette série.
C'était quelque chose, en tout cas, de très très drôle. C'était la série Hard, réalisée par Cathy Vernet, qui est toujours visible sur MyCanal, etc. Effectivement. Mais il y a eu plein de choses depuis, puisqu'on va te retrouver bientôt dans Ghost, l'adaptation de la série britannique pour TF1 Disney+. Tu vas faire une tournée au théâtre à partir de janvier. Je crois, mon cher François, eh bien, ça se passe plutôt bien.
Ça se passe très bien et je vais vous donner un petit scoop, mais je vais faire une petite apparition dans la dernière saison d'HPI pour dire au revoir, parce que Audrey Fleurot est une grande amie, pour dire au revoir à cette saison. Donc je vais aller faire un petit caméo dans HPI pour rire.
Ah, c'est génial, dans l'ultime saison, hein, ce qui s'annonce être l'ultime saison, à 5e.
Absolument.
J'imagine la tristesse qu'ils doivent avoir et à la fois aussi partir en haut de l'affiche. C'est quelque chose d'assez beau de choisir, c'est assez courageux mine de rien comme choix.
Oui, mais c'est toujours mieux de partir en pleine ascension. Hein. Et je pense que c'est très bien. Il faut alterner. Il faut pas. Je pense pas qu'il fasse 100 kilos dans les choses. Enfin, c'est mon avis. Hein. Après, je ne sais pas du tout quels sont leurs moteurs de la volonté, cette volonté d'arrêter. Mais je pense qu'ils font bien pour faire d'autres choses, pour rebondir. Voilà.
Il y a tellement d'avis. Morgane n'a pas dit son dernier mot. Mais bon, on ne sait pas. Voilà. Ça pourrait peut-être revenir de façon événementielle à l'avenir, en tout cas. Et les choses, voilà, je sais, sont ouvertes. Elle nous en avait parlé un petit peu il y a quelques mois maintenant. Et c'est une belle aventure. En tout cas, Ghost, ça aussi, c'est une sacrée belle aventure. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de cette adaptation ? Alors, ça va être diffusé à la fois sur TF1, sur Disney+, en première fenêtre, c'est ça ?
Exactement. Très bien renseigné, dites-donc. Oui, c'est ça. Disney+, en première fenêtre, et puis TF1. Alors, le pitch, en gros, c'est un couple qui hérite d'un château hanté par des fantômes de différentes époques, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Et ils vont devoir cohabiter avec eux, sachant que elle, Camille Chameau en l'occurrence, la fille du couple, se prend un lustre sur la gueule, et qu'à partir de ce moment-là, elle voit les fantômes. Son mari ne les voit pas.
Tout le monde va la prendre pour une folle, évidemment.
Voilà, c'est sujet à beaucoup de comédies, beaucoup de rigolades. Plateau très bruyant et sympathique. On a bien ri pendant 2 mois, parce que c'est quand même une distribution haute en couleurs. Il y a du Eric Judor, du Fred Testo, Natasha Lindinger, Bruno Sanchez, Poulpe.
Une bonne partie de l'équipe d'Un Stupéfiant Noël, je vois.
C'est Arthur Sanigou qui réalise, et puis il a cette fidélité des troupes de théâtre, et comme on s'entend bien qu'on démarre au quart de tour et qu'on n'a pas beaucoup de temps souvent pour faire ce genre de série, c'est bien de pas perdre de temps. On se connaît, on sait comment on fonctionne, et c'est très très agréable de travailler dans ces conditions-là.
Et puis le théâtre, je sais que c'était une des facettes que t'apprécies énormément, de te retrouver devant le public. Là, on peut pas faire semblant. Faut y aller. Et il faut avouer que le théâtre, il n'y a rien de mieux pour ça. Et souvent, les comédiens, c'est ce qu'ils aiment avant tout.
En tout cas, moi, je viens de là. Et je ne pourrais pas m'en passer. C'est-à-dire que je dois y revenir régulièrement. Et là, je pars en tournée sur une pièce qui s'appelle L'effet miroir de Léonore Confino, mis en scène par Julien Boisselier, avec Caroline Anglade, avec Jeanne Arène, avec Éric Logérias. On fait le tour de la France, on va même au Maroc. Et c'est une pièce que j'adore. Jeanne Arène a eu un Molière d'ailleurs pour cette pièce. J'alterne, j'aime faire de l'image, j'adore ça, et puis j'adore faire du théâtre aussi. Donc.
Et puis Montmartre, nouvelle série aussi, bientôt.
J'ai un petit rôle mais qui me plaît beaucoup. C'est une mise en scène de Louis Choquette, avec qui j'avais fait Philharmonia, qui est un metteur en scène canadien assez exceptionnel, qui est un grand metteur en scène. Et c'est une série sur Montmartre au début du siècle, c'est-à-dire les cabarets, les Apaches, le maquis de Montmartre. Enfin,
en costume d'époque, tout ça.
En costume d'époque, donc un mix entre Emily in Paris et un film sur la nostalgie de ces époques-là, qui étaient des époques complètement dingues. C'est Alice Dufour qui a le rôle principal. Il se fait qu'Alice Dufour, je l'ai épousée il y a 3 semaines. Mais donc je suis très content de venir faire une apparition dans sa série.
Alors justement, toi qui as été dans le jury du premier festival Creativity Asset, qu'est-ce que t'as pensé de ce que t'as vu, de cette sélection, de tout ce que t'as pu découvrir, en tout cas en matière de fiction française, dans toute sa diversité?
Alors, ça fait beaucoup de temps maintenant que je fais ce métier, et je vois une évolution de la télé française assez exceptionnelle. Et je dois dire que, spécialement sur cette sélection, sur ce programme que j'ai vu, tous ces téléfilms, le niveau est exceptionnel. J'ai été subjugué vraiment par la qualité de la mise en scène, des réalisations, des scénarios, des jeux d'acteurs, des acteurs que je ne connaissais pas, qui sont absolument dingues, d'autres que je connaissais, qui sont voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, je me suis fait une réflexion, je suis très fier de faire de la télé en France.
Bon, François, merci en tout cas d'avoir été avec nous. On te retrouve bientôt dans Ghost. On te retrouve bientôt au théâtre aussi. Ça, c'est la classe.
Voilà.
Merci, à bientôt, François.
Merci beaucoup.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Haut les mains de Julie Manoukian qui sortira mercredi au cinéma. Julie est avec nous justement pour en parler. Bonjour Julie.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. On va vous faire découvrir ce film dans vos cinémas près de chez vous, en tout cas à partir de mercredi. On va y raconter l'histoire des Green Panthers, des femmes qui vont se lancer dans un cambriolage contre les pollueurs et les harceleurs et vont devoir se faire flanquer pour ouvrir un coffre d'un espèce de macho, Bernard, qui va nous faire évidemment beaucoup rire. Il y a de la comédie, il y a du fond, il y a plein de choses en fait dans ce film. Julie, qui après les vétos, en tout cas, je suis sûr, les spectateurs ne seront pas déçus. Mercredi. Comment est né le projet? Déjà en quelques mots pour commencer.
Alors en quelques mots, ce scénario qui à l'époque s'appelait les Green Panthers, moi je l'ai reçu, Yves Marmion qui avait produit les Vétos et moi, ça faisait déjà 2 ou 3 ans qu'on cherchait un autre film à faire ensemble et on avait tenté des choses et notamment un développement sur un film qui parlait d'écologie mais on s'y était cassé les dents et puis un jour Yves m'envoie ce scénario écrit par un monsieur qui s'appelle Jean-Marcel Herr qui est auteur, romancier, prof de français et qui écrit pour Groland depuis une quinzaine d'années. Et j'ai reçu ce texte et je suis tombée dedans et je l'ai adoré tout de suite parce que Jean-Marcel avait réussi à faire ce que moi j'avais pas réussi de mon côté toute seule, c'est-à-dire faire une comédie avec les deux sujets qui me tenaient le plus à cœur.
C'est-à-dire l'environnement et les injustices faites aux femmes. Et c'est vraiment ce mariage des deux, hein, ce film.
Complètement, c'est vraiment ça et surtout c'est avant tout une comédie, c'est-à-dire que ce sont des sujets qui sont évidemment sérieux et qui sont des repoussoirs quand même pour beaucoup de gens et je peux le comprendre. Ce sont des sujets dont je trouve qu'on en parle le mieux quand on arrive à trouver la distance de la comédie, puisqu'il ne s'agit pas de faire la leçon, ni sur un sujet ni sur l'autre, il ne s'agit pas de faire une leçon de choses non plus et de prétendre éduquer les gens ou de leur expliquer comment ils devraient vivre leur vie, c'est tout le contraire. Jean-Marcel, il avait fait tout le contraire, il avait créé des personnages assez barrés, tous aussi fous les uns que les autres, les héros comme les anti-héros du film. Et puis voilà, il avait posé une énergie qui faisait qu'on avait envie de voir ce qui allait leur arriver et que les sujets passaient au second plan après l'attachement qu'on pouvait avoir pour ces personnages.
Alors Vincent Elbaz va incarner Bernard dans ce film. Alors évidemment, il est un brin macho à souhait, mais à chaque fois qu'il va vouloir faire des jeux de mots, que ça soit bon gré ou mal gré, lui, ça va se retourner très souvent contre lui. C'est ça qui est drôle, évidemment.
Oui, alors Vincent, il a composé un Bernard qui est très proche de l'idée que je me faisais du personnage en le découvrant quand je l'ai lu la première fois. Bernard, c'est un homme comme plein d'autres qui est resté un peu coincé dans une autre époque. C'est pas quelqu'un ni de violent, ni d'agressif, ni de méchant. C'est un type qui a vécu sa vie un petit peu en marge, qui a eu ses succès, mais qui vit quand même dans une forme de loose. Et puis qui va, dont la route va télescoper celle de ce groupuscule qui l'embarque malgré lui et au contact de qui sa chaleur va se réveiller en fait. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce texte quand je l'ai reçu, c'est que Bernard, il incarnait mes oncles que j'adore mais avec qui je m'engueule à Noël. C'est-à-dire des hommes plus âgés que moi pour lesquels j'ai beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour mais avec qui je vais m'écharper sur les sujets qui fâchent justement. Et j'ai adoré la promesse dans le scénario de Jean-Marcel d'un film que je pourrais partager avec des gens que j'aime et avec lesquels je suis pas d'accord. Qu'on puisse rire ensemble.
Et ils évoluent un peu, tes oncles, notamment sur ce sujet du coup, comme le personnage de Bernard pourrait évoluer dans le film.
Certains plus que d'autres, mais oui, en fait, moi c'est ça. La famille, ça reste ma fibre et un sujet qui m'obsède. Et donc, je raconte quand même souvent des histoires de familles qui se retrouvent ou de gens qui constituent des sortes de familles, des gens qui se rencontrent et qui sortent de leur isolement, on va dire, et puis qui finissent par pouvoir compter les uns sur les autres. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui me touche beaucoup, notamment avec mon tonton préféré, que j'aime de tout mon cœur. C'est que lui et moi, si on avait des conversations sur certains sujets avec d'autres personnes, on resterait hermétique au point de vue de l'autre. Mais parce qu'on s'aime, lui et moi, à la fin du dîner, si on n'a pas dit trop de bêtises ou qu'on ne s'est pas trop énervé, on arrive à entendre ce que l'autre a à dire.
Et à manger le dessert.
J'aimais beaucoup... Ah. Ouais, exactement, et à partager le dessert.
Émilie Caen, qui est géniale aussi, hein, on l'adore Émilie.
Oui, Émilie, elle a une puissance comique. Ouais. extraordinaire, avec une finesse de jeu et un talent d'improvisation aussi qui est un pur bonheur. Et Émilie, elle m'a fait le cadeau de prendre le personnage de l'homme tel qu'il était. C'est-à-dire un personnage de femme qui parfois rebute les lecteurs ou les acteurs ou parfois même le public, parce que les femmes qui ne sourient pas tout le temps, on a tendance à le leur reprocher. Et Émilie, elle a composé avec le personnage de l'Olympe une femme extrêmement touchante, je trouve, et puis surtout dont on comprend le combat et la volonté. Et elle n'a pas essayé de l'adoucir, elle l'a juste rendue parfaitement humaine.
On pourrait les appeler les Robin des Bois, en fait, hein, du coup.
Alors, il y a un peu de ça, hein, c'est des Robin des Bois qui se seraient croisés avec les pieds nickelés, quoi. donc voilà, il y a quand même cette dimension-là dans l'écriture de Jean Marcel et qui m'a aussi beaucoup plu. On est avec des outsiders, on est avec des génies du crime, mais pas tout à fait des génies, quoi.
Mais c'est ça qui va être drôle, évidemment. Julie, donc, ça sort mercredi, ça s'appelle Haut les mains. On va écouter la bande-annonce dans un instant. Juste avant, on va évoquer tes projets, puisque tu as tourné le pilote d'une nouvelle série pour France 2, qui va bientôt arriver, intitulée Ness et Ryan, avec notamment Nadia Rose, qui fera son arrivée, normalement, si tout va bien, avant l'été, hein.
Tout ce qui a été évoqué pour l'instant, mais ça, le monde mystérieux de la télé.
Ah, ça.
Voilà. À un moment, on saura ce qui se passe.
Là aussi, c'est deux mondes qui vont se croiser, se percuter, hein, quand même, hein, dans cette série policière.
Alors, c'est vrai que c'est aussi une histoire de rencontre improbable et de télescopage. C'est une vieille mécanique efficace, on va dire, et à laquelle moi je trouve toujours du charme, en tout cas, quand le texte s'y prête. Les rencontres improbables, ouais. Et celles, encore une fois, qui changent la trajectoire d'une vie.
Eh bien, tu reviendras évidemment en parler. On en parlera de Ness et Ryan très bientôt, en tout cas dans Chut, on écoute la télé, lors de sa diffusion. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. On va écouter la bande-annonce. Ça s'appelle donc Haut les mains et c'est mercredi dans les salles. Un film à ne pas rater, évidemment, en ce mois de février. Merci Julie.
Merci Alain, merci beaucoup.
À très vite.
Au revoir.
Les Green Panthers, ce groupe d'activistes enchaînant les cambriolages chez les patrons d'entreprise, courent toujours.
Olympe, il y a un intrus dans le garage là. C'est un concurrent.
Code rouge. Zora, tu me reçois?
Ah, disons, faut prendre la retraite, papy.
Pourquoi tu l'as ramené?
Parce que c'est lui qui a ouvert le coffre.
Aucune serrure ne me résiste. Je les chatouille, je les titille, puis je les humecte.
Il se fout nous avec ses métaphores de macho? Il dégage!
Mais on a besoin de lui, là.
C'est un débris, il tient pas debout.
Là, il est en fin de course, il va faire ce qu'on lui demande sans nous emmerder, en fait.
Je vous entends, là.
Ça peut être trop physique. Non, parce que je fais de l'asthme d'effort. Et des chiens. Je suis phobique.
Il est vraiment trop fragile.
Bienvenue chez les Panthères.
On va où?
Chez lui, un gros port de pollueurs qui s'en sort à coup de corruption. Et du coup, pour révéler ses magouilles, il faut qu'on ouvre des coffres.
Il est pas écolo, lui?
Le greenwashing, ça vous parle?
On est d'accord que personne ne doit savoir qu'on est passé.
Vous parlez à Bernard, les doigts de fer.
Je préfère pas voir ça.
Allez, ne bougez pas dans un instant. Romane Dodwick nous rejoint, notre invité d'honneur du jour, qui sera en spectacle partout en France. Alors, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
On a passé du temps à chercher dans nos vies un peu de couleur de soleil quand le ciel était gris.
Fallait qu'on se protège, qu'on évite les pièges.
C'est ce qu'on nous a dit.
Mais est-ce qu'on a réussi?
On s'est déjà tous égarés sur le chemin. J'ai besoin de quelqu'un qui nous tende la main. Il fallait qu'on nous dise que rien ne peut nous briser.
Si on avance ensemble,
il fallait qu'on se rassemble.
Et on aura encore des doutes, ils font partie de nous.
On a tous pris des coups,
mais on tient debout.
On construira le monde de demain. On sera pas toujours d'accord, mais du moment qu'on s'aime encore. On construira le monde de demain. À nous de changer le décor. Sans peur on est bien plus fort, plus fort.
On fera tout ce qu'on peut pour qu'on n'ait plus le droit
de naître dans un monde où certains ont faim et froid. Il faudra qu'on soit des milliers à ne jamais oublier que le chemin est long
avant de faire pour de bon.
On nous dira tellement de fois que l'on est fou d'y croire,
mais
Si l'on n'y croit pas, dis-moi qui le fera. On construira le monde de demain. On sera pas toujours d'accord, mais du moment qu'on s'aime encore, on construira le monde de demain. À nous de changer des corps, sans peur on est bien plus fort.
On sait comment faire.
Faut détruire les barrières,
ne plus jamais se taire.
Si on le fait ensemble,
on sait comment faire.
Faut détruire les barrières,
et qu'est-ce qu'on sera fiers.
Et on construira nous
le monde de demain.
On sera pas toujours d'accord,
mais du moment qu'on s'aime encore,
on construira
le monde de demain.
À
nous de changer les corps, sans peur on est bien plus fort. Et on construira,
on construira
le monde de demain.
Le monde de demain.
On sera toujours d'accord, mais du moment qu'on s'aime encore, on construira
encore
le monde de demain.
Le monde de demain.
À nous de changer les corps.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Salut, salut, c'est Ahmed Silla. Moi, chaque semaine, j'écoute Alain Jeanne dans Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, notre invité d'honneur aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé. Vous l'avez vu peut-être dans Danse avec les stars ou encore dans Fort Boyard. Et Dieu sait que ça lui a laissé un souvenir impérissable. Il est en tournée partout en France avec son spectacle adorable. Roman Dodwick est avec nous. Bonjour Roman.
C'est Seigneur.
Ça va bien?
Bah oui, j'ai envie de faire le début en espagnol, mais c'est tout ce dont je me rappelle, c'est Seigneur. J'ai pas plus d'infos.
Bon, j'allais te répondre thank you, mais c'est pas la même langue non plus. Bon, j'espère que tu vas bien. En tout cas, on va faire un petit retour en arrière. On va te dresser un petit peu le portrait, Roman. Mais il faut savoir qu'en tout cas, on aura la chance de te voir passer partout en France en tournée. Tu seras notamment d'ailleurs pour ce 14 février, pour cette Saint-Valentin, au Festival Escale du Mont à Royan, en Charente-Maritime. Tu seras également le 22 mars à Palavas-les-Flots. Tu seras le 4 avril dans le Gard à Saint-Gilles. Tu seras le 6 avril à Béziers, le 25 avril à l'hébergement, ça sera en Vendée, au-dessus de la Roche-sur-Yon, et surtout une date importante à Paris, le Théâtre de la Madeleine, le 17 mai prochain. Roman, on repart un petit peu en arrière. On va essayer de comprendre un peu ce qui t'a amené sur scène, ce qui nous amène vers toi aujourd'hui. Comment c'est né tout ça, cette envie?
C'est une question à laquelle j'essaie de répondre avec mon psy depuis pas mal d'années. Pourquoi faire rire, je sais pas. En vrai, tout a démarré il y a un petit moment déjà, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, parce que moi j'ai commencé à faire du stand-up à 15 ans, quand j'étais encore en troisième. C'était pendant mon stage de troisième que je rencontre Caroline Vigneault,
qui était avec nous au Festival de l'Alpe d'Huez il y a quelques jours d'ailleurs.
C'est vrai. On lui passe le bonjour, on lui passe le bisou. Et c'est Caroline qui m'a proposé de faire sa première partie. J'avais que 15 ans, je sortais d'un stage de troisième. Elle m'a dit pour que je signe ta convention, tu dois monter sur scène. Alors elle m'a obligé en quelque sorte à monter faire ma première fois sur scène, et je suis sorti de là en disant madame, je crois que j'ai trouvé ma vocation. Et elle m'a
c'est
dit,
génial ça.
Et elle m'a répondu, appelle-moi encore une seule fois madame et je te mets ma main dans la gueule. Et à partir de là, j'ai commencé à faire de l'humour. Voilà, j'ai commencé à essayer de faire rire les gens.
Bon, il y a eu Danse avec les stars, ça a été vraiment un tournant incroyable qui t'a fait vraiment connaître au grand public, où t'as dansé avec Anna Riera, Danse avec les stars qui est revenu depuis vendredi dernier d'ailleurs sur TF1, voir ta danseuse avec Adil Rami, ça va? Pas trop jaloux?
Bah écoutez, c'est particulier de se voir se faire remplacer, tu sais, j'ai vraiment l'impression que je me suis fait larguer, que mon ex s'affiche avec un gars qui a gagné la Coupe du Monde, qui fait 1m85 et qui a des muscles de partout. Mais à part ça, pourquoi serais-je jaloux? Pourquoi éprouverais-je un sentiment de contrariété? C'est pas du tout énervant. Non, j'ai énormément confiance dans le talent d'Anna Riera et dans sa force de pédagogie pour emmener Adil le plus loin possible. Moi, je parie sur une finale. Franchement, si elle a réussi avec un petit Roman Dodwick,
aller en demi,
je pense qu'Adil, elle peut l'emmener en finale. Adil, t'as la pression, mais maintenant c'est comme ça.
Roman, est-ce que ça t'a aidé justement peut-être de faire une émission comme celle-ci, de faire des grands directs sur TF1, de prendre de l'assurance peut-être sur scène et d'appréhender cette tournée différemment aujourd'hui ?
La danse, de toute façon, c'est quelque chose qui enseigne beaucoup de choses sur le corps. Moi, je me tiens beaucoup plus droit depuis que j'ai rencontré Anna et depuis que j'ai rencontré cette émission. Je sais que je rentre sur scène avec beaucoup plus de confiance. Tout dans la vie est relié au corps directement. J'avais jamais fait autant de sport et j'ai jamais eu autant de dopamine dans mon corps qu'à cette période-là de ma vie. J'ai vraiment eu un quotidien de sportif de haut niveau pendant 3 mois. On s'entraînait du matin au soir, 6 jours sur 7. J'allais voir des kinés 3 fois par semaine. J'allais voir des kinés, des ostéos. Je faisais de la cryothérapie. Je me mettais dans des bacs pour enlever les douleurs musculaires. Et c'est des bacs qui sont à moins 40. Donc en fait, tu rentres dedans, tu sors de là. Si j'avais de la moustache, elle aurait été gelée. Donc c'était que sur les cheveux. J'ai vraiment eu un quotidien très particulier. Donc c'est sûr que il y a un avant et un après dans une vie. On n'envisage pas les choses de la même manière. Et en plus, c'est vrai que ça m'a fait connaître à toute une partie du public qui me connaissait pas du tout. Même si je viens de la scène, je me suis fait découvrir sur les réseaux sociaux. Soudainement, l'arrivée sur une grosse plateforme comme TF1 et en même temps, très très peu de temps avant, j'avais démarré les grosses têtes sur RTL avec Laurent Ruquier. Je crois que, en fait, c'est juste, je respecte tellement non seulement ces institutions que sont Fort Boyard, TF1, hein, les grosses têtes, tout autant que je respecte Instagram et TikTok. Je pense que très longtemps, il y a eu une sorte de guerre entre les différents canaux, entre les différents réseaux, qui gagnera entre la télé, Internet, la radio. Et je pense que la vérité, elle est dans le fait que tout existe, qu'il y a un public pour tout, et que quand on a envie de se faire connaître, quand on a envie de faire connaître son spectacle, et surtout quand on a envie de faire rire les gens et qu'on aime les gens, quand on arrive quelque part, on se plie aux règles et on essaie de faire le maximum.
Il faut surtout s'adapter aussi aux nouveaux modes de consommation, parce qu'autrement on perdra les jeunes aussi, hein, qui aujourd'hui c'est un peu leur nouvelle forme. Ça se compte en millions, les gens qui te suivent, notamment sur TikTok. Mm-hmm. C'est juste dingue.
C'est dingo, hein. C'est dingo. C'est entre 4 et 5 millions, je crois. C'est fou.
Et t'as fait vraiment du harcèlement scolaire, ton cheval de bataille.
Oui. Bah en fait, on m'a proposé pendant, ça fait plusieurs années qu'on me propose toujours d'être le parrain d'associations un peu dans tous les sens et au début, je voulais pas du tout parce que je me suis dit que j'avais pas envie de faire de la récupération médiatique en m'affichant auprès d'une cause noble pour me faire passer pour un mec plus sympa que ce que je suis. J'ai jamais trop aimé ça chez les artistes parce qu'en fait, je comprenais pas pourquoi les artistes s'affichaient avec des causes, je trouvais ça un petit peu démago. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ces associations, elles ont besoin des artistes pour exister, pour briller
et pour être soutenues.
Pour être soutenues et pour et en fait, de la même façon qu'aujourd'hui une marque peut avoir besoin de moi pour faire la promotion d'un yaourt, une association peut avoir besoin de moi pour avoir des dons. Et en fait, je me suis rendu compte que mon temps, mon exposition et mon énergie pouvaient être vraiment au service d'une cause. Et au début, je voyais ça un peu comme de la récupération, en mode l'artiste profite de l'asso. Et en fait, non, c'est l'asso qui profite de l'artiste. Et c'est pour ça qu'il faut le faire, je pense, avec des associations qui nous touchent le plus, parce que c'est comme ça qu'on touchera le plus aussi les gens. Moi, j'ai été victime de harcèlement scolaire. D'ailleurs, ça s'appelait pas harcèlement à l'époque. Il y avait pas de. C'est très récent au final qu'on ait mis un nom sur ce drame.
Et qu'on en parle autant.
Et qu'on en parle autant, mais c'est aussi parce que il s'est passé des choses qui ont fait qu'on en a parlé. J'aurais bien aimé qu'on en parle pas, qu'on perde pas Lucas, qu'on perde pas tous ces enfants. Il y en a eu 3 ou 4 les dernières années qui se sont suicidés en France. Donc là, je viens de plomber l'ambiance de cette émission qui était plutôt chouette. Jusqu'ici, je suis navré, mais en même temps, c'est la vérité.
Et c'est important de le dire parce que le harcèlement scolaire aujourd'hui, c'est un combat qui doit absolument persévérer, qui doit absolument continuer, parce que tout ça, ça doit s'arrêter tout simplement.
Oui, d'autant qu'en plus, c'est un combat qui se fait à l'école. Et en plus sur les réseaux sociaux derrière, le harcèlement s'arrête plus aux limites d'une cour de récré. Donc il y a plein de choses à faire et la première c'est d'en avoir conscience et surtout de dire aux enfants qu'ils sont pas seuls, qu'ils ne sont pas responsables et qu'il y a des adultes qui sont là pour les aider au cas où. Le numéro pour les enfants, pour les jeunes qui sont victimes ou témoins de harcèlement scolaire, c'est le 3018. Il y a des juristes et des psychologues qui écoutent 7 jours sur 7 de 9h à minuit. Donc de 9h à minuit, vous pouvez les appeler. Si vous êtes pas à l'aise avec le téléphone, vous pouvez envoyer un texto via la plateforme 3018 sur votre téléphone, sur un ordinateur, c'est anonyme. Ils ont plein de solutions très concrètes. Ils sont en lien avec les réseaux sociaux pour faire supprimer des photos que vous ne voulez pas qui tournent. Si jamais il y a une image de vous qui vous met dans l'embarras et dont vous avez perdu le contrôle, ils peuvent la supprimer en quelques minutes. C'est les seuls à pouvoir faire ça. Et surtout, ils peuvent avoir des contacts avec les établissements, les chefs d'établissement. Ils ont des contacts avec l'éducation nationale directement. Ils peuvent agir très concrètement,
rapidement,
voilà, ne restez pas dans cette situation, voilà. Donc je suis content, je me dis tiens, c'est un petit message, je peux le dire dans votre radio, et si ça ne fait que donner une idée à une personne, j'ai gagné, et ces 3 minutes, elles valaient le coup.
Je suis sûr et certain. Ah, écoute, on n'a pas plombé l'ambiance, moi je trouve pas, parce qu'on va, rigoler un peu. On va écouter un extrait de ton spectacle, Fort Boyard. Fort Boyard, on en parle juste après, on écoute.
Je ne pourrais pas faire d'enfant à tout le monde ce soir, voilà, désolé d'avance. Et en plus, je sais que la plupart d'entre vous sont mineurs, donc moi c'est Roman, pas Norman. Il y a deux mois, j'étais invité à faire Fort Boyard. Je crois que c'est la première fois en 30 ans qu'un mec fait deux crises d'angoisse en une seule émission. Il est 6h du matin, j'ai sur un Zodiac avec deux nains. Ça, normalement, c'est une histoire qui se termine par « Et à la fin, il meurt !»
Roman Dodwick est notre invité. Alors, j'ai l'impression quand même que Fort Boyard t'a laissé des traces absolument indélébiles.
Oui, et le pire, c'est que j'y suis retourné.
J'ai Mais fait... pourquoi?
Je vais te répondre très sérieusement. Déjà parce que j'en faisais des cauchemars la nuit. Des mois après, je cauchemardais encore de Fort Boyard.
De la première fois?
De la première fois, je rêvais que j'y retournais, que ça se passait mal, tout ça. Et en fait, ils m'ont rappelé en me disant « Est-ce que tu veux le refaire ?» Parce qu'on a beaucoup rigolé l'année dernière. Alors évidemment, j'ai eu envie de leur dire « Allez vous faire en queue ». Mais en finale, je me suis dit « J'ai besoin d'y retourner ». Mais comme quand t'as été traumatisé par quelque chose et que t'y retournes.
Faut exorciser.
Exactement, parce que c'est un combat maintenant. Et en fait, j'y suis allé vraiment avec cette mentalité. J'y suis pas du tout allé ni pour le plaisir. Je vous jure, hein, je voulais pas y aller. Hein. J'y suis pas allé pour le plaisir. J'y suis pas allé pour me faire voir ou machin. J'y suis allé parce que je me suis dit, si je n'y vais pas, je vais en cauchemarder toute ma vie. Il faut que j'y retourne et que je réussisse des épreuves. Il faut que je gagne des clés. Il faut que je foute ma main dans la gueule de Fort Boyard, du Père Fouras ou de Passepartout. Il faut que je fasse un truc. Et au final, j'y suis retourné et j'ai eu quelques beaux actes de bravoure tout de même. Alors j'y suis allé, c'était vraiment encore une fois très stressant parce que tu passes la journée puis des fois ils te filment et je vois bien normalement moi si je suis sur une émission je souris, je suis là, je suis cool, je suis content d'être là, c'est la seule émission où j'arrive, je fais la tronche du début à la fin, je suis terrorisé et j'y suis retourné pour exorciser un peu ça, donc voilà, maintenant je n'y retournerai plus.
Et le pire, c'est le soir quand les gens vous attendent à l'arrivée au bateau, vous avez mine complètement déconfite et que là, vous faites des photos pendant 10 minutes, un quart d'heure.
Il y a de ça, effectivement. Bah, il y a aussi le matin quand tu pars sur le bateau à 6h du mat et que t'es avec tous les gens qui vont te faire vivre un cauchemar toute la soirée. Eux, ils savent ce qu'il va y avoir. Toi, tu ne sais pas, donc t'es dans le bateau, ça tangue et ils te regardent en mode. Et t'as là, t'as cet enfoiré de Willy Rovelli qui fait comment ça va, Roman? Je suis content de te retrouver. Et il sait que il va te faire bouffer un pied de porc. Avec du lait concentré et des moustiques, donc c'est atroce, mais je suis content. Et en fait, le truc qui est terrible, c'est que là, je dis à tout le monde, je l'ai fait déjà une fois, j'avais dit plus jamais. Ensuite, j'y suis retourné une deuxième fois pour exorciser. Et il y a e-enfance et 3018 qui m'ont dit, Roman, est-ce que tu pourrais retourner à Fort Boyard pour défendre le harcèlement scolaire, mais en tant que...
Et là, tu peux pas refuser.
Et je sais que là, si ça va au bout, je serais obligé d'accepter. Et en fait, c'est atroce parce que je sais que le chef d'équipe, c'est celui qui mange le plus. C'est celui à qui on fait faire les pires trucs. Et c'est celui qui peut pas dire non! Parce que, il peut pas,
C'est le chef, quoi.
Bah oui, c'est le chef!
T'as compris que toutes les phobies qu'on te demandait, c'était pour te les mettre entre les pattes, quand même.
Ouais.
Voilà. Bonne réponse.
J'ai mis du temps à comprendre ça, mais oui. Non, à Fort Boyard, ils ont pas de... Ça rigole pas, quoi. Puis en plus, ils te jettent dans le truc et c'est débrouille-toi. Tu te dis, bon, ok. Honnêtement, c'est assez flippant. Non. En plus, la dernière fois, j'avais, tu sais, il y a une deuxième émission maintenant, il y a une deuxième partie de
la suite.
Il y a la suite. Et en fait, entre les deux émissions, je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer dans cette deuxième partie parce que je suis vraiment fatigué, j'en ai marre, j'ai besoin au moins de, parce que le pire, c'est de pas savoir ce qui t'attend. C'est même pas tant les épreuves, c'est d'être toujours en permanence en train de te dire, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'ils vont me jeter dans la flotte? Est-ce qu'ils vont me jeter des scarabées dessus? Tu sais pas ce qui va t'arriver. Et je suis allé dans le bureau de la production et en secret, j'ai regardé la liste des épreuves qu'il allait y avoir après. Et je savais qu'il y avait la maison de poupée qui est la pire des épreuves où on doit prendre les araignées, regarder le code qui est en dessous, c'était celle que je voulais vraiment pas faire. Et en fait, c'était pas pour moi, c'était pour Joe Wilfried Tsonga, je crois. Et je me suis fait griller par la prod en train de tricher et de regarder les épreuves. Et juste pour ça, ils m'ont fait faire la maison de poupée. Donc voilà, non seulement j'ai essayé de tricher, ça devait pas être moi, puis au final c'était moi. Donc j'avais...
Bien mal acquis ne profite jamais, tu vois.
Oui, ça c'est une belle expression de boomer.
C'est ça, et ben oui, qu'est-ce que tu veux, j'assume. Bon, Roman, en tout cas, adorable. Ça tourne partout en France, qu'est-ce qu'on y voit sur scène? Tu racontes beaucoup de choses. Évidemment, tu parles d'internet, tu parles de Fort Boyard, tu parles de plein de choses différentes.
Oui, de comment est-ce qu'on se retrouve un peu par hasard sur les réseaux sociaux à devoir essayer de comprendre les codes, à devoir de comprendre. Donc j'explique, je traduis pour les boomers qui viennent me voir, je traduis le vocabulaire des jeunes, je traduis leur culture, leurs jeux vidéo, leur musique et surtout les réseaux sociaux que les darons repartent avec plein d'armes finalement pour pouvoir se la péter à la machine à café et surtout pour pouvoir comprendre un petit peu mieux leurs ados. Et au passage, je vais aussi vous raconter que ma vie n'est pas forcément autant instagrammable qu'elle en a l'air. Si sur les réseaux sociaux, j'essaie de garder l'image la plus tranquille tranquille, la plus noble, la plus sainte. Sur scène, je suis libre, je raconte ce que je veux, et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, j'ai des trucs à raconter.
Ça va envoyer du lourd, ça va envoyer du lourd, justement. Ça sera pour ce 14 février à ne pas manquer, Escale d'humour à Royan, Palavas-les-Flots, Saint-Gilles dans le Gard, Béziers. Ça va passer en Vendée, ça va passer bien sûr à Paris, au Théâtre de la Madeleine le 17 mai prochain. Rendez-vous à ne pas manquer, évidemment, pour aller voir ce spectacle de Roman Dodwick. Est-ce que tu as des envies maintenant particulières si on te proposait un rôle dans une série télé aujourd'hui, à l'image de Nordine Ganso dans Master Kim, par exemple, ou autre? Est-ce que tu as des projets un peu dans ce sens, ou est-ce que tu auras envie, en tout cas, si tu devais lancer un appel à des producteurs, réalisateurs qui sont nombreux à nous écouter?
Bah déjà, vous allez pouvoir me voir bientôt dans une nouvelle série France Télé qui va s'appeler Zonze, qui est réalisée par Marine Maugrin-Legagnère et Marine Colomniès. Marine Maugrin-Legagnère, c'est la réalisatrice et la créatrice et l'autrice de la série Mental, où elle s'était attaquée à l'univers des hôpitaux psychiatriques pour adolescents. Maintenant, elle a décidé de prendre un sujet beaucoup plus léger, les prisons pour mineurs. Donc ça se passe dans le milieu carcéral pour mineurs. C'est une série d'évasion avec des jeunes dans une prison avec plein de problèmes qui vont devoir essayer de s'entendre pour réussir à s'échapper. C'est une série formidable.
Un prison break, mais pour les jeunes.
C'est un peu un teenage prison break. Et en même temps, c'est une série qui n'a pas oublié d'être intelligente. Puisque c'est une série qui va aborder déjà un sujet extrêmement tabou. Je crois qu'il y a aucun film ni série qui parle de ça. La prison pour mineurs. Parce qu'il y a des enfants en prison entre 13 et 17 ans, quand on commet des crimes ou des gros délits, il y a des prisons, et en fait c'est fictif, donc ça se passe tout de même on a tourné dans l'ancienne abbaye de Clairvaux, donc dans la prison qui était normalement pour des grosses peines, qui étaient les peines de 15-20 ans de perpétuité. Guy Georges y était 6-7 mois avant nous, autant vous dire que quand on arrive là-bas, on sent que les murs ont une histoire, mais on a tourné dans une véritable prison, et c'est une série qui va aborder donc le sujet infiniment tabou des prisons pour mineurs et surtout du système carcéral français, de comment est-ce qu'on punit, est-ce qu'on essaie de réintégrer les jeunes à la société, le méritent-ils vraiment de se retrouver ici, ont-ils une chance de s'en sortir, ou sont-ils condamnés à être des criminels toute leur vie parce qu'ils ont baigné dans l'univers carcéral dès leur jeunesse. Et derrière ces sujets très tabous et très sérieux, et un traitement extrêmement intelligent, vous allez retrouver toute la comédie qui est typique à son autrice et à son mari, Quentin Pissot, qui est l'autre auteur de cette série. Il y a une véritable magie dans cette série, on l'a tournée, il y a Nicole Ferroni dedans, qui reprend son rôle de psy, de mental.
Et qu'on retrouvera bientôt pour une nouvelle saison de Piquante sur Téva, d'ailleurs, on la recevra.
Tout à fait, on parlait de Danse avec les stars, il y a Fovoto, qui joue une gardienne de prison, mais aussi Tiffaine Davio, qui joue aussi Jean-Claude Moika. Enfin, on a un casting exceptionnel aux côtés des adultes, comme aux côtés des jeunes, où j'ai pu faire là, c'est une série chorale de 5-6 personnages qui sont vraiment extraordinaires. Et j'ai hâte que vous découvriez cette série, parce que c'est mon premier vrai rôle, mon premier rôle sérieux, mon premier rôle. Et j'interprète un personnage absolument délicieux qui s'appelle Gabin. Et que j'ai hâte que vous ayez de la peine pour lui, parce que vous allez en avoir.
Bon, Zonze, c'est bientôt sur France.tv, donc une toute nouvelle série, en tout cas inédite à découvrir. Roman, merci d'avoir été avec nous, en tout cas.
Mais merci Alain Jeune. Jeanne, pardon.
Bon, on a parlé de Fort Boyard tout à l'heure, on va parler maintenant un peu d'Internet quand même. On va réécouter un deuxième petit extrait de ton spectacle, parce que moi je ne m'en lasse pas. Allez vite le voir en tournée en tout cas, et vous trouverez toutes ces dates sur le site romandodwick.com.
C'est la fin de l'interview ?
Bah oui, déjà on va se quitter, déjà, bah oui.
On a passé un si bon moment Alain.
C'est vrai hein ?
Mais oui, j'ai passé un très bon moment.
Merci à toi.
À très bientôt Alain.
On t'embrasse et puis on te dit à très vite.
Mais tout pareil. Donne-moi ton réseau préféré, je te dirai quel ado tu es. Tu vois, si par exemple ton réseau préféré c'est Facebook, c'est que déjà... tu n'es plus un ado. Moi j'y vais quand même sur Facebook, bah déjà pour prendre des nouvelles de ma mère. Boomer c'est très facile, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, t'en es un, cherche pas. Viens. T'as regardé le top 50 et tu connais par cœur les démons de minuit ? Boomer. T'as connu les Twix à l'époque où ça s'appelait encore des Raiders ? Boomer ! Tu t'es fait une coupe mulet pour essayer de ressembler à MacGyver et t'étais fier ? Gros beauf.
Yeah.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Allez, voici une page donc spéciale festival de Luchon qui s'est refermée donc samedi soir lors de cette cérémonie de clôture avec des prix attribués notamment pour le jury documentaire qui a attribué le prix du jury à Même si tu vas sur la Lune, produit par notre ami Olivier Vlodarzic. Le grand prix documentaire a été décerné au film Le Garçon qui sortira en salle de cinéma d'ailleurs le 26 mars prochain et le prix du public a été attribué à La Lumière des Femmes. Élise Darblay et Antoine Depère, les deux réalisateurs, sont à notre micro.
Profondément heureuse que le public nous ait donné un prix parce qu'on l'a confronté, on a eu l'occasion au festival de discuter avec eux, de voir les lycéens, de voir les collégiens, de voir les gens dans la rue. Et on est très, très, très flattés que tous ces gens aient voté pour nous, en tout cas, ou en tout cas, aient mis plus de bulletins pour nous.
Finalement. Antoine ?
Bah oui, ce que je disais, on fait des films pour le public. Donc que le public nous récompense, c'est la meilleure des récompenses.
C'est clair, c'est une très belle récompense et en plus ça tombe bien puisqu'il est diffusé demain matin sur Arte, un rendez-vous à ne pas manquer à 11h30 si je ne m'abuse. Et puis déjà sur arte.tv et vous revenez tout à l'heure justement pour nous le présenter justement en profondeur La Lumière des Femmes dès demain sur Arte, on répète donc 11h30 et je vous dis à tout à l'heure les amis. Et on va passer au prix attribué par le jury fiction et surtout d'abord déjà aussi par le jury public, vous public qui êtes allés nombreux dans les salles et le prix du public lui a été attribué donc au film Au les cœurs, réalisé par Antoine Garceau avec Alizé Coste et Saosa Nabès qui réagissent à notre micro.
Ouais, c'est trop bien, c'est le meilleur prix parce que c'est celui du public, c'est eux qui vont voir l'unitaire, donc c'est génial de se dire qu'on a réussi à avoir ce prix-là grâce à ce magnifique projet d'Antoine Garceau.
Ouais, j'ai trouvé très ému Saosa aussi sur scène.
Oui, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est un film, encore une fois, qui parle du collectif, de l'entraide. On essaye aussi de passer un message à travers ce film et ça nous touche. Enfin, moi, ça m'a touchée en tout cas particulièrement de voir que ça a pu du coup toucher les gens. Et j'espère que ce sera la même chose quand il sera sur France 2 d'ici quelques temps.
Tu vois, le public ne s'y trompe pas et c'est bien de le montrer au public. Vous avez les retours directs, c'est génial.
Ouais, c'est super. Et puis c'est vrai que ce projet qui parle de solidarité, qui parle d'entraide, et je trouve que c'est vraiment des sujets importants en ce moment. Et de se dire que, bah voilà, Au les cœurs, ça parle des ressources du cœur, ça parle des gens, de l'humain. Et c'est super d'avoir ce prix.
Ouais.
Vous êtes contente?
On est très heureuse.
Bon, et vous serez là en plus en Chute, on écoute la télé évidemment pour présenter avec toute une partie de l'équipe. Moi je pense à Eugène Marcus, à Pierre Perrier, à tous ceux qui sont autour de vous dans ce film qui sont absolument incroyables.
Oui. On le rappelle, c'est avant tout un travail d'équipe, c'est une troupe et je crois que ce film, s'il parle aux gens et s'il fonctionne, c'est parce que on s'est tous donné la main sur le tournage et qu'on a tous, on y a tous mis du sien. Et je crois que ça se retranscrit à l'écran.
Ouais, puis j'ai une petite pensée aussi pour Xavier Guelfi, pour Théo Navarro-Mussi, pour Anne Charrier, pour Nicolas Grandhomme. Voilà.
Alison Paradis, toute cette troupe de merveilleux comédiens et comédiennes qui nous ont inspirés.
C'était formidable, c'était une super équipe. C'était vraiment ce travail de troupe comme on peut avoir au théâtre. Et là, on l'a eu avec Antoine, avec tout le monde, avec toute l'équipe technique. Pierre Cottreau qui a fait la lumière et les cadres. Enfin, vraiment, ça a été un vrai travail d'équipe.
Au les cœurs, bientôt sur France 2. Les filles, bravo encore une fois et on se dit à bientôt.
À bientôt. Merci.
On continue avec le prix de la meilleure musique qui a été attribué à Léa Castel et Johan Kirescu pour le téléfilm L2, diffusé bientôt sur France 2 avec Sylvie Testu et Meriem Serba. Le prix du meilleur scénario a été attribué à Nathalie Abdelnour et Nathalie Sojon pour la mini-série L'Intruse. Sur France 2, Nathalie Abdelnour est à notre micro.
Je suis ravie. Je ne m'attendais pas du tout et je suis ravie parce que l'écriture est longue. Ça nous a pris 2 ans. Et parfois, on doute et là, c'est vraiment la récompense ultime. Donc, je suis contente de ce prix. Voilà, je suis ravie.
En tout cas, ça va arriver bientôt, la mini-série L'Intruse. Et puis, Nathalie, tu viendras avec toute une partie de l'équipe, en tout cas, nous parler de cette très belle mini-série qui débarque bientôt sur France 2.
Tout à fait. bientôt sur France 2, début mars, j'espère.
Et le prix de la meilleure interprétation féminine ex aequo a été attribué à Sylvie Testu et Myriam Serba pour le téléfilm justement L2. Myriam Serba réagit également à notre micro.
Bah, je suis très contente, forcément, c'est... Et puis, non seulement je suis heureuse, bien évidemment pour moi, mais pour toutes les deux. C'était vraiment une histoire de ces deux femmes qu'on a défendues avec beaucoup de bonheur et avec le Renaud Bertrand qui a su choisir, qui a le talent pour choisir non seulement ses acteurs et nous mettre en scène et nous amener aussi à pouvoir donner ce travail. On a travaillé vraiment ensemble et puis on est très heureux, quoi. J'ai pas grand chose à dire à part que vive le Festival de Luchon, que ça continue à être aussi top. On est très bien accueillis. Je trouve qu'il y a une sélection plutôt de qualité. Et puis je suis super ravie.
Quand un jury n'arrive pas à départager justement deux comédiennes comme ça et qu'il récompense un duo, ça veut dire que normalement il ne fonctionne de façon exceptionnelle. Vous l'avez ressenti sur le tournage toutes les deux avec Sylvie?
Alors j'ai ressenti, ça c'est sûr. Je l'ai ressenti et je crois que oui, ça avait une force ensemble, deux personnages très différents, mais on a mené. Avec, je crois, au mieux en tout cas, cette aventure.
Un membre du jury a dit de la dentelle que vous avez fait, toutes les deux.
Beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Oui, on s'est régalé. Puis Sylvie, c'est une actrice, pour moi, exceptionnelle. Déjà, j'ai accepté ce projet. Et avec Sylvie, c'était un honneur. Alors, de le partager ensemble, on est au top, là.
Bon, tu viendras avec le petit Cassim, avec la productrice, viendrait nous présenter ce magnifique téléfilm Eldo qui sera bientôt diffusé, en tout cas sur France 2. On t'attend, Myriam.
Oui, avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt, merci.
Et le prix d'interprétation masculine a été attribué ex aequo aussi à Alexis Rosenstiel et Max Libert pour le téléfilm de Thierry Benisti, Les ailes collées, diffusé bientôt sur France 2. Le prix de la meilleure série pour lui a été attribué à L'Intruse, mini-série, Lucie HD réagit, une des deux actrices principales avec Mélanie Douté à notre micro.
Bah écoutez, je suis très contente d'avoir reçu ce prix qui est un prix collectif aussi bien au niveau de l'écriture, du jeu évidemment que je partage avec Mélanie, Eric Caravaca, toute l'équipe, aussi bien la production que France Télé, enfin vraiment c'est une belle récompense collective.
Tu as hâte, j'imagine, maintenant de le voir diffuser, hein, parce que là maintenant il a appartenu à une petite partie de public ici à Luchon. Mais bientôt, c'est le grand saut.
Oui, voilà. Moi, je suis très contente maintenant qu'on a eu ce prix, etc. Bah, maintenant, on espère que le public sera au rendez-vous. On espère.
Un joli prix qui récompense, en tout cas, le collectif et toute cette belle mini-série qu'on découvrira bientôt sur France 2. Ça va arriver vraiment incessamment sous peu. On vous tient au courant. Et puis, tu seras notre invité avec Mélanie, justement, et toute l'équipe lors de la diffusion. Merci à toi, Lucie.
Merci à vous.
Et carton plein pour la mini-série L'Intruse, qui rafle aussi le prix de la meilleure réalisation attribuée à Charlie Monsara, qui réagit également à notre micro.
Bah, je suis trop contente, vraiment. Bah, tu t'en doutes, hein.
On s'y attend jamais évidemment à ce genre de choses, mais quand on réalise une mini-série, évidemment c'est un collectif, mais à qui tu le dédies ce prix aujourd'hui?
Franchement à toute l'équipe qui a travaillé avec moi, c'était la première fois que je menais un 4x52 toute seule, et j'ai été très très bien entourée avec une équipe formidable, des comédiens formidables et une prod formidable.
Alors faut dire qu'il y a eu beaucoup de prix en plus, hein?
Ouais, on a eu beaucoup de chance, on a eu le prix du meilleur scénario, le prix de la meilleure série, et la mise en scène aussi, donc c'est chouette. Je suis juste déçue pour mes comédiennes, mais bon, elles l'ont eu avec nous sur la meilleure série.
Et oui, il y a eu la meilleure série qui récompense carrément le collectif, et d'ailleurs on va aller poser la question à Lucie HD justement, qui fait partie, et à l'autrice qui est avec nous, Nathalie Albernour aussi. Merci Charlie.
Merci beaucoup.
Et puis on termine par le prix de la meilleure fiction unitaire attribué, comme le public d'ailleurs, au téléfilm Au les cœurs d'Antoine Garceau, qui était également à notre micro.
Alors je dois dire que je passe une merveilleuse soirée. C'est-à-dire que on a d'abord reçu le prix du public. C'est quand même déjà une récompense tellement, tellement chaleureuse, tellement enthousiasmante de voir que le public a aimé ce film. Beaucoup de gens sont venus me voir après la diffusion pour me dire qu'ils avaient été touchés. Donc déjà j'avais gagné ma soirée avec ce prix du public. Et à la fin, quand on a remis le prix du meilleur unitaire, donc remis par des gens de la profession, c'est-à-dire réalisateurs, comédiens, techniciens, musiciens, et qu'ils ont choisi au Laker comme meilleur unitaire de la sélection, là je dois dire que c'est pas une double peine, c'est une double récompense, et ça vraiment c'est absolument merveilleux.
Au Laker, en quelques mots, raconte l'histoire un peu de la naissance des cantines solidaires et des Restos du Cœur.
C'est exactement ça, c'est la grande histoire, et dans cette grande histoire on raconte l'histoire d'un trio, Pablo, Gabriel et Malika, qui tous les trois gravitent autour de ces cantines solidaires, chacun pour des raisons différentes, et qui vont s'aimer, se quitter, se retrouver. Donc cette petite histoire qui est toujours inscrite dans cette décennie 86-96. Et ce projet que Coluche avait il y a bientôt 40 ans, là en 85, de faire quelque chose de très provisoire pour aider les gens, et ben comme vous le savez, c'est toujours d'actualité plus que jamais.
Et c'est une histoire qui va nous emmener justement sur plusieurs temporalités jusqu'en 2024, puisqu'on verra ces personnages évoluer sur près de 40 ans. Antoine, le film passera bientôt sur France 2. Tu viendras avec toute ton équipe, évidemment, le présenter en tout cas. Et puis vraiment, bah, bravo encore une fois.
Tes mots me touchent beaucoup, Alain, et sache que je serai ravi de le présenter chez vous.
Allez, j'en profite bien sûr pour remercier toute l'organisation du festival de Luchon, Emmanuel Mallet et Marie Séguret notamment, pour ce festival organisé de main de maître en 4 mois seulement. Vraiment, bravo encore une fois les filles. Merci à tous nos attachés de presse également et tous ceux qui nous ont chouchoutés. Je pense à Peggy Vauchel, à Luc Adam bien sûr. Je pense à Jody, Maxime et tous les autres. Voilà, on vous embrasse évidemment très très fort. On espère vous retrouver très vite du côté du Festival de Luchon. On va parler justement maintenant de La Lumière des Femmes qui débarque sur Arte. Vous pouvez retrouver ce documentaire notamment sur arte.tv. Élise Darblay et Antoine Depeyre sont à notre micro dans quelques secondes.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
On va parler du film documentaire La Lumière des Femmes. On a la chance d'avoir les deux réalisateurs qui sont avec nous. On a Élise Darblay, on va commencer par les femmes. Bonjour Élise.
Bonjour, merci.
Comprendre pourquoi c'est une nécessité de commencer par les femmes. Et puis on a également Antoine qui est avec nous, Depeyre, hein, on dit comme Depeyre. Ça Antoine Depeyre.
Depeyre. Depeyre, oui.
Merci Antoine d'être avec nous. Et puis on a la productrice qui est avec nous aujourd'hui, Isabelle Daniac. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va parler de Néné dans ce film, qui est une femme qui va changer son destin, qui va prendre son destin en main dans ce film. C'est vraiment un parcours de femme, alors qui s'inscrit aussi très logiquement, pour le coup, dans un événement comme une journée internationale du droit des femmes, par exemple, aussi, et pose plein de questions sur la place de la modernité, sur la place des femmes dans la société. Il y a plein de questions qui se posent quand on voit le film. Qui a eu l'idée déjà au départ, Isabelle?
Alors au départ, c'était mon coproducteur, Joachim Landau, qui a repéré cette ONG qui est une ONG indienne et qui organise des formations destinées aux femmes dans les pays de l'hémisphère sud, et qui m'a dit « Écoute, va voir, j'ai l'impression qu'il y a un film à faire ». Et il avait raison, et donc j'ai commencé à écrire une petite note que j'ai transmis à Élise et Antoine en leur disant que j'aimerais que ce soit eux qui réalisent ce film. Et ils m'ont dit c'est super, on adore cette idée, mais on va pas du tout le faire comme ça.
Et là, vous avez pris les choses en main, tous les deux.
On a pris les choses en main, mais en fait, Néné aussi a beaucoup pris les choses en main. Quand on est parti, on ne savait pas. On a suivi l'ONG, mais on aurait pu atterrir à Zanzibar, on aurait pu atterrir ailleurs. C'était en sortie de confinement. On a atterri dans les villages autour de chez Néné, donc c'est un jeu de hasard et d'alignement de planètes. Et même l'ONG ne s'attendait pas à autant de refus de la part des hommes, autant de refus de faire partir les femmes, de préférer le noir, l'électricité, plutôt que de faire partir les femmes. Donc on s'est emparé du sujet, mais on s'est concentré sur la traversée des femmes et la naissance de leur... l'émergence d'une certaine bulle de liberté qui allait...
L'émancipation.
...en elle, plutôt que de ce rapport à l'électricité. Parce qu'en tant qu'occidentaux, on avait du mal à se sentir légitime par rapport à ces questions-là de est-ce bien, est-ce pas bien, l'électricité, qu'est-ce que ça change ou quoi. On a vraiment voulu se concentrer sur cette explosion qui surgissait à l'intérieur des femmes.
Parce que Antoine, pour parler vraiment un peu du fond des choses, Néné vit dans un village qui n'a pas d'électricité. Tout espoir de voir l'électricité arriver, on peut dire, est quasiment perdu d'avance dans ce village. Et elle va prendre les choses en main en suivant une formation contre l'avis négatif, évidemment, de tous les hommes qui peuvent l'entourer, d'aller se former pour l'électricité solaire, notamment les énergies renouvelables, comme on dit aujourd'hui, qui peuvent être une solution, effectivement, aux endroits reculés du monde. Aujourd'hui, par exemple, il n'est pas possible de ramener l'électricité.
Non, alors le Sénégal a quand même toute une politique pour électrifier le pays, sauf que ils peuvent électrifier à 4 km d'un axe principal. Là, les villages sont à 2 ou 3 heures de route d'un axe principal, et donc ce serait pas du tout rentable de faire des lignes électriques pendant des kilomètres et des kilomètres pour des petits villages isolés comme ça. Donc la solution, effectivement, c'était les panneaux solaires, mais il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'en occuper. L'ONG, nous, on a, pour en revenir à notre motivation sur ce projet, c'est qu'on s'est dit, tiens, il y a une ONG qui va venir et qui va tout bouleverser en apportant cette formation, et que ça allait créer un grain de sable, et que du coup, il allait y avoir une transformation de ces petites sociétés. Et on a voulu filmer ça.
Isabelle, qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrêtée justement sur Néné? Qu'est-ce qui a fait que ça a été le personnage principal, un peu quand même, et l'axe principal de votre film?
Ce qui s'est passé, c'est que, comme ils disent, on a souhaité raconter l'histoire d'un changement, d'une transformation, et d'une transformation qui serait celle des femmes et qui toucherait les autres femmes. Parce qu'on a beaucoup lu, évidemment, avant de partir, et quand on forme une femme et qu'on la change, elle va transformer toute une communauté. Et c'était ça l'enjeu. Et Néné, elle a surgi. Elle surgit dans le film, elle surgit dans l'histoire, et elle en devient
l'héroïne.
Exactement. Et ça, Élise et Antoine, ils ont eu l'intelligence et la finesse de la laisser faire.
Comment se répartissent les tâches tous les deux, là, pour le coup? Quand on tourne un film documentaire où l'imprévu a toute sa place aussi, parce qu'il peut arriver tout, hein, même s'il y a quelques petites choses écrites, on peut jamais réellement savoir ce qui va se passer devant la caméra.
Alors déjà, notre système de fonctionnement avec Antoine, c'est que on est à la fois très similaires et très complémentaires, et on a chacun un boîtier, on filme et on prend le son. Et Antoine, moi je touche pas au drone, en revanche. Antoine touche moins au son, mais on filme comme ça, et quelquefois on est ensemble, quelquefois on est séparés, et on navigue un peu à regarder ce que regarde l'autre, mais surtout on discute, on parle, on échange, parce qu'on est dans un principe d'immersion, donc sur du long terme, et on est face à des situations, et on n'a pas forcément Isabelle parce qu'il n'y a pas de réseau. Donc on arrive à parler énormément avec Isabelle avant, énormément avec Isabelle après, mais quand on est dans le tournage, on a besoin de parler aussi ensemble, à se dire, mais là, moi je vois rien. Ah ouais, mais moi je vois ça. Toi tu vois ça, moi je vois rien. Mais qu'est-ce que tu veux? Et puis on débat, on discute, on se fait submerger. En fait, il y a beaucoup de discussions et de confiance, en fait. On danse un peu. C'est vraiment, moi j'ai l'impression qu'on danse sur les, on tourne toujours avec des optiques fixes, pour une raison très simple, c'est que si on veut un plan serré, il faut se rapprocher. Et du coup, pour se rapprocher, il faut avoir eu l'accès et l'autorisation de se rapprocher. Donc c'est un travail avec chaque personne à renouveler à chaque instant.
Est-ce la fameuse barrière d'intimité.
Est-ce que là j'ai le droit? Est-ce que là c'est approprié? C'est pas approprié, je vais aller faire un plan large. Et en fait, nous, ça nous permet aussi d'évaluer où on en est avec la personne qu'on filme. Et de rester en vigilance perpétuelle. Donc on fait la même chose, et en même temps on se complète énormément, que ce soit dans notre... Et c'est pas tant le regard d'un homme et le regard d'une femme, parce que je trouve que c'est pas si cloisonné que ça, en fait. C'est vrai que ça nous donne accès à des moments privilégiés. Antoine, il peut aller rigoler avec les mecs et les secouer un peu, aller titiller. Moi, je pourrais pas. En revanche, je peux aller dans des zones plus intimes, dans des chambres, poser des questions avec, voilà. Mais sinon, le côté homme d'un côté, femme de l'autre, est finalement pas si...
Non, Néné, de toute façon, que ce soit qu'elle parle à Élise ou à moi, elle est libre, elle était libre de parole, elle se censurait pas du tout, il y avait aucun, voilà, elle, qu'on soit homme, femme, elle nous parle comme elle nous parle, elle les cache, elle dit ce qu'elle veut dire. Mais comme disait Élise, c'est vrai que elle a filmé des scènes avec les femmes en plus intimes, auxquelles j'aurais pas pu forcément avoir accès. Et en revanche, moi, je me suis retrouvé avec les hommes à essayer un peu de, effectivement, les provoquer pour sans les juger, mais leur dire, mais quand même, là, vous foutez rien en fait, là, pendant que les femmes elles travaillent, vous êtes allongés là. Il fait, bah ouais, c'est ça, mais ils se sentent pas jugés, et puis ils assument complètement qui ils sont et ce qu'ils font. Donc c'était assez marrant quoi. On a pu parler de comment moi j'étais en France en tant qu'homme avec les femmes et que je disais ben en fait moi je pourrais pas avoir deux femmes. Donc voilà, on était un peu sur le ton de l'humour et donc voilà, c'est des choses que qu'aurait pas pu dire Élise. Et voilà, et du coup ça crée aussi des connexions, des connivences et puis voilà, ils voient, enfin on était vraiment avec eux quoi.
Dernière question avant de se quitter, non pas des moindres, c'est la question peut-être la plus importante. Quand on revient d'un tournage comme ça, où on rencontre des gens qui manquent de tout, est-ce que c'est plus facile de se rendre compte que nous on manque de rien ?
Alors, moi je dirais qu'ils manquent pas de tout. Ils ont plein de choses qu'on n'a pas. Déjà ils ont l'entraide, beaucoup, que bah, quand on vit dans une grande ville, on l'a pas forcément. Ils ont quand même aussi de la joie, ils ont des moments de joie intenses, donc ils manquent pas de tout vraiment. Après j'avoue que quand on rentrait de chaque tournage, on arrivait à Paris et en fait on partait à la campagne, ou on partait où il y avait rien parce que c'était trop pour nous en fait. On n'arrivait plus à rester dans la ville, tout allait trop vite. On se disait, mais en fait, nous, on n'a rien compris à nos vies. Il nous fallait un moment un sas de décompression, ou de recompression plutôt, parce que le rythme là-bas n'est pas du tout le même, et qu'on arrivait à Paris, on n'y arrivait pas en fait. Donc on repartait.
C'est pas eux qui ont raison. C'est toute la question subtile en tout cas que peut poser le film. Élise, un petit mot justement sur ce retour en France après.
C'est surtout sur ce que nous, on a appris, en fait, et avec Antoine, on voit pas, tous les films, on casse un nouveau préjugé aussi. Et c'est vrai qu'on n'avait pas imaginé à quel point, ces femmes-là allaient à ce point nous apprendre sur le processus du libre arbitre. Par quelle phase on passe pour, s'émanciper. Et c'est passionnant en fait, et c'est elles, par leur chemin, parce que nous, les femmes, en Occident, on a mis des siècles et des siècles, donc moi je ne suis que l'héritière de tout ça. Ces femmes-là, elles l'ont fait en 2 ans, ce que nous on a fait en 2 générations. Et donc ça nous a offert le sentiment de, quand elles passent par la joie, la découverte, et puis la frustration qu'elles ont transformée en colère et qu'elles ont transformé en volonté de changer les choses, ben en fait moi j'ai appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte que la frustration, ben c'est nécessaire en fait.
La lumière des femmes sur Arte demain à 11h30, demain mardi, un rendez-vous à ne pas manquer, pour le coup en linéaire comme on dit aujourd'hui, et puis bien sûr à retrouver aussi sur arte.tv pour toutes les semaines qui arrivent, si vous avez l'occasion en tout cas de pouvoir découvrir ce film. Et arte.tv, vous savez maintenant, c'est aussi disponible sur les plateformes TF1+ et M6+, donc n'hésitez pas, vous pouvez y avoir accès par plusieurs biais. Ne le ratez pas en tout cas, demain matin, Lumière des femmes, c'est à 11h30 sur Arte. Qu'on vous invite à aller voir. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et on se quitte avec la bande-annonce.
On circule depuis la semaine dernière dans toute la zone. On choisit des membres du village qui viennent en formation pour apprendre comment monter, réparer le matériel solaire. Ce travail se fait par les femmes.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé du beau monde. On va parler de la mini-série Frottez Frottez avec Aïe Haïdara. On aura également le plaisir de recevoir Émilie Caen. Ça sera une grande spéciale avec ou sans enfant. Elsa Bléaud sera notre invitée, accompagnée de Joséphine Dray, Julien Pestel. On aura Adèle Gallois également, Cyrus Chahidi. Franchement, ça va être génial. Et puis, évidemment, inscrit sur le gâteau, ça sera les 30 ans des Baudins sur M6. Ils seront là, Jean-Christian Frayssinet, Vincent Dubois seront nos invités exceptionnels.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.